Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Demandons à l'Esprit Saint de pénétrer pour nous, d'illuminer notre cœur et notre intelligence, pour nous conduire à la vérité de notre entière. Notre Dame, notre Saint, vous
priez-vous.
Je continue de répondre aux quelques questions. Pourquoi ce qui est se pose au niveau de la coopération? Le jugement d'existence est-il plus présent au niveau de la coopération? Il est présent au niveau de l'amour d'amitié, il est présent au niveau de la coopération, il est présent au niveau du travail. Il est toujours présent, mais toujours à travers une certaine détermination, puisque c'est une opération. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on dévoile le jugement d'existence. Le jugement d'existence n'est pas donné explicitement dans l'amour d'amitié. Et pourtant, il est présent. Puisque dans l'amour d'amitié, on regarde l'ami, et non pas l'amour que j'ai pour mon ami. Ainsi, vous regardez l'amour que vous avez pour votre ami uniquement, alors à ce moment-là, le jugement d'existence tend à disparaître et vous commencez à tomber dans une certaine idéologie. Parce que vous regardez plus le sentiment ou l'idée que vous avez de votre ami que votre ami. C'est la même chose pour la coopération. Je peux très bien idéaliser la coopération. Si j'idéalise la coopération, je ne coopère plus. Mais je fais mon beurre. Il y a un beurre breton. Alors, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout. C'est quelque chose qui fait que je me replie sur moi-même. Et me repliant sur moi-même, je ne coopère plus. C'est le réalisme qu'on a dans le travail, c'est le réalisme. On peut toujours faire que n'importe quelle expérience se coupe du jugement d'existence. Ça, c'est bien évident. Et le monde dans lequel on est fait qu'on a tellement de peine de rejoindre la réalité. Alors, c'est ce que je vous ai dit plus d'une fois, la différence entre le chat en face du feu, qui est très heureux d'être en face du feu, parce qu'il a chaud. Il a chaud, il ne pense pas au feu, mais il a chaud. Et le vol de l'aigle. Toutes mes expériences peuvent devenir des idéologies. Et toutes mes expériences peuvent rejoindre le réel. Mais il y a un partage des eaux qui se fait là entre les deux. Et dans la mesure où l'imaginaire s'empare de mes expériences, alors j'idéalise. Et je tomberai progressivement dans l'idéologie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça. C'est comme la conversion de l'intelligence. La conversion du cœur, elle se fait par le Saint-Esprit. Alors elle se fait d'un seul coup. L'éclair, le tonnerre, ça dépend pour qui. Pour les uns, c'est l'éclair, pour les autres, c'est le tonnerre. Le Saint-Esprit a besoin de vous donner une bonne gifle pour vous faire comprendre qu'il existe. Autrement, vous ne l'auriez pas vu. Alors, il met par terre Saul de Tarse. C'est comme ça qu'il fait. Fortiter, suaviter. Tandis que la conversion de l'intelligence, elle ne se fait pas d'un seul coup. Parce que Dieu nous laisse nous convertir. Nous devons nous convertir. Et cette conversion d'intelligence, elle se fait lentement, parce qu'elle se fait selon modo humano. Et selon le mode humain, elle se fait dans le devenir. Mais alors, nous découvrons progressivement qu'en effet, nous sortons d'une espèce de nuage dans lequel on est, ce nuage imaginatif, affectif, qui est notre cocon. On est bien, bien emmitouflé. Et puis petit à petit, on arrive à découvrir l'autre. Et jusque-là, on ne l'avait pas découvert du tout. Ça met du temps. Je suis tout à fait d'accord, ça met du temps. Parce que de fait, on ne nous a pas du tout orientés vers ce contact avec le réel. L'intelligence s'est développée du côté logique. Du côté logique, on n'a pas besoin de rencontrer l'autre. Oh, c'est la béatitude de la solitude. N'est-ce pas ? Et il y a des solitudes qui restent uniquement au point de vue logique. Je m'enferme dans ma logique. Et je ne rencontre jamais l'autre. Je rencontre l'être de raison, et c'est mon petit enfant. Et je l'aime beaucoup, l'être de raison. Il est si merveilleux, parce qu'il est inoffensif. L'universel, c'est merveilleux. Il est inoffensif. J'ai jamais souffert de l'universel. Vous voyez comme il est bon. Il est sans odeur, et puis le reste. Il est inodore, il est sans saveur, c'est l'universel, il est neutre. Il vient de moi. C'est ça l'universel. Alors on s'enferme dans la logique, on s'enferme dans l'imaginatif, l'imaginaire et l'affectif, et on ne rejoint jamais le réel. Ça a mis du temps, hein, mais depuis le XIVe siècle, il faut voir ça, depuis le XIVe siècle, notre Occident s'enferme dans la logique et s'enferme dans l'imaginaire et s'enferme dans l'affectif. Et c'est pour ça que nous avons tellement de peine d'en sortir. Même la scolastique qui soi-disant était réaliste, est arrivée à dire des choses qui sont complètement en dehors du réalisme. C'est ce que je vous disais l'autre jour à propos de la connaissance pratique. De la connaissance spéculative découle la connaissance pratique. Mais quelqu'un qui dit ça, ça prouve qu'il n'a rien compris à la connaissance pratique. Ça s'est répété dans la scolastique. C'est invraisemblable. Vous savez, relisez de temps en temps, c'est amusant à faire. C'est amusant, relisez Macquart, hein, quand vous avez envie de pleurer. Relisez Macquart, n'est-ce pas ? Alors, quand vous relisez Macquart, vous verrez ce que c'est que la scolastique. Vous lisez Grete, si vous aimez mieux, c'est en latin. Alors ça vous réveillera davantage. Alors lisez Grete, et vous lirez Grete, et vous verrez ce que c'est que la scolastique. Vous direz, mais c'est curieux, des générations et des générations se sont enfermées là-dedans. Et le réel, non. C'est l'être de raison, la logique. C'est l'être intentionnel, imaginatif. Donc vous voyez, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que toute expérience qui est une véritable expérience, quand vous rencontrez l'autre, le jugement d'existence est présent. Mais à travers une forme, la quiddité de l'opération, qui implique action et passion. La distinction de Maritain, philosophie pratico-spéculative et spéculativo-pratique, n'est-elle pas une distinction critique ? Cette distinction n'a-t-elle pas sa source dans la confusion spéculative-scientifique ? Vous savez, c'est toujours très difficile de voir d'où vient une distinction comme celle-là. Je crois qu'elle provient de la scolastique décadente. Le besoin de couper un cheveu en 1000 morceaux. Alors vous avez donc le point de vue de la philosophie pratico-spéculative, spéculativo-pratique, vous voyez, puisque on dit que la connaissance spéculative ex extensione fit practica. Donc je peux l'arrêter au milieu. Entre deux, il y a une gare. Alors comme on disait à Fribourg, flamat, c'était juste la gare après Fribourg. Les express ne s'arrêtaient pas, mais les bons petits trains s'arrêtaient. Alors on s'arrête entre deux. Eh bien, entre le point de vue de la connaissance pratique et la connaissance spéculative, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un pont ? Non. La connaissance n'est orientée vers la vérité. La connaissance n'est orientée vers l'action. Entre deux, il n'y a rien. Pourquoi le besoin de mettre un pont ? On met le pont parce que fit ex extensione. De l'extension, elle devient pratique. Ah, dans l'extension, c'est le continu. Je peux toujours couper en deux. C'est le verre qu'on coupe en deux. Il y en a deux qui vivent. C'est merveilleux. Alors, il y a la connaissance pratico-spéculative, spéculativo-pratique. Je ne sais pas si vous saisissez le verre coupé en deux, n'est-ce pas ? D'un côté, pratico-spéculative, de l'autre côté spéculativo-pratique. N'est-ce pas ? Moi, j'ai jamais saisi ça. J'avoue, j'ai jamais compris. Parce que ou je suis dans une connaissance pratique, ou je suis dans une connaissance spéculative, je n'éprouve pas le besoin de faire un pont aérien ou un pont sous-marin, c'est comme vous voulez, mais je n'éprouve pas le besoin, parce que je crois qu'il y a deux finalités différentes, c'est tout. Pourquoi vouloir à tout prix mettre un pont entre deux? Mais non, il y a deux connaissances différentes. Et ceci, c'est normal, étant donné la complexité de la connaissance humaine. Et alors j'essaie de comprendre la complexité de la connaissance humaine. Ah ça oui. Mais la complexité de la connaissance humaine n'exige pas du tout de mettre des ponts et de couper en deux après. Oui. De sorte que je crois que c'est une fausse distinction. Alors, la dialectique, par l'immanence qu'elle implique, n'empêche-t-elle pas la distinction et le lieu et le lien spéculatif pratique ? La dialectique, comme elle provient d'intelligence vivante, dans un processus, alors elle se développe uniformément à partir de l'idée, à partir du concept. Alors elle se développe elle-même, elle découvre en elle-même sa propre fécondité. Donc elle n'éprouve pas le besoin d'une distinction pratique et spéculative, puisque la distinction pratique et spéculative provient de l'objet et de la finalité. Donc elle est au-delà de la connaissance. Il faut bien. Ce n'est pas la connaissance qui se divise en pratique et spéculative. Vous comprenez bien. C'est parce que la connaissance est objective et qu'elle atteint une fin, qu'elle a deux formes différentes. Mais si je pars de la connaissance ne cherchera pas à se diviser. La connaissance cherche l'immanence. C'est l'orientation la plus profonde de la connaissance. Mais si une connaissance réfléchit sur son objet, si une connaissance réfléchit sur sa finalité, elle verra qu'elle a une diversité. Donc la diversité est au-delà de la connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui explique la diversité de la connaissance, comme toujours. C'est la réalité qui explique la diversité de la connaissance, parce que la réalité est atteinte diversement. Elle est atteinte de l'intérieur par l'opération, elle est atteinte en respectant sa transcendance. La dialectique est-elle une philosophie de la relation? Elle est une philosophie de la dialectique, dans l'immanence. Elle implique une relation, c'est sûr, mais elle n'est pas la philosophie de la relation, parce que ce n'est plus la vraie relation. La vraie relation, comme un prédicament, est relative à l'être. Et la dialectique n'est pas relative à l'être. Donc je ne peux pas dire que c'est une philosophie de la relation. Je peux dire que c'est une philosophie de l'immanence qui implique des divisions et qui veut recoller après les divisions. Le tout est donné au point de départ, on implique la division et on retrouve le tout. Tout simplement, c'est une philosophie de l'immanence. Dans cette immanence, nous voyons bien, puisqu'il y a division, il y a donc relation. Mais ce n'est pas du tout le prédicament relation qui est impliqué dedans. Donc ce n'est pas une philosophie de la relation. Une dialectique qui se voudrait spéculative aboutit-elle nécessairement à une phénoménologie de l'esprit? Je crois que la phénoménologie de l'esprit implique comme méthode la dialectique. C'est plutôt l'inverse. La dialectique est une méthode qui naît à partir d'une immanence de la vie. On n'a pas voulu d'abord la dialectique, comme c'était une chose première. Non, il y a quelque chose de plus radical, c'est la vitalité de l'esprit. Pourquoi les idéologies partent-elles toujours de dialectique transcendantale et non de dialectique spéculative? Parce que le mot transcendantal, justement, est quelque chose qui a remplacé le point de vue spéculatif, à partir de Kant. Spéculatif veut dire théorétique, veut dire contemplatif, et donc implique une finalité. Transcendantal ne l'implique pas, puisque c'est à partir de la forme. Bon, alors, nous allons vite, à partir de ce que je vous ai rappelé, comprendre que le premier axe que nous avons vu de la philosophie jusque maintenant, de la philosophie première, c'était la recherche de ce principe propre de ce qui est en tant qu'il est. dit couramment l'être en tant qu'être. Mais si vous voulez parler avec toute la précision qu'il faut, il faut dire ce qui est en tant qu'il est. Et l'intelligence interroge pour connaître qu'est-ce qu'il y a de premier dans ce qui est en tant qu'il est. Quel est le noyau primitif et premier ? Selon les prédicaments, c'est la substance. Est-ce que c'est bien la substance au niveau de l'être ? Vous voyez ? Je vous avais dit, hein, puisque les prédicaments servent toujours de toile de fond. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Les prédicaments servent de toile de fond. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Les prédicaments naissent à partir d'une réflexion descriptive. Les prédicaments naissent à partir tout simplement des diverses parties de la philosophie. C'est toujours sous-jacent à toutes les parties de la philosophie. Vous voyez, il y a deux choses sous-jacentes à toutes les parties de la philosophie. Le jugement d'existence qu'on a dévoilé et les prédicaments. Est-ce que vous pouvez retrouver les prédicaments ? Vous essayez de faire, vous avez avant, j'essaie de comprendre votre génétique, hein. Vous avez donc la philosophie pratique, puis vous avez la philosophie de la matière, c'est-à-dire la philosophie de la nature, et puis la philosophie du vivant. Si vous réfléchissez sur les déterminations essentielles du réel qui sont saisies à travers ces diverses parties de la philosophie, vous pouvez établir les dix prédicaments. Et d'une certaine manière, avant l'élaboration de ces diverses philosophies, les dix prédicaments étaient déjà donnés. Mais je les retrouve à l'intérieur. Autrement dit, il y a deux choses qui sont présentes à ces cinq parties de la philosophie, trois parties de la philosophie pratique. Donc à ces cinq parties de la philosophie, qu'est-ce qu'il y a de commun ? Le jugement d'existence et les prédicaments. Ça, je crois qu'on peut le saisir assez facilement. Les dix prédicaments sont présents à toutes les parties de la philosophie. Toutes les parties de la philosophie impliquant d'une certaine manière le jugement d'existence. Il y a donc toujours l'ordre. L'ordre est présent. L'ordre est présent dans la philosophie pratique. Homo faber, homo amicus, homo politicus. Donc l'homme est toujours présent. Or, l'homme, qu'est-ce qu'il implique ? Il implique Pierre, il implique l'homme. Substance première, substance seconde. Je ne peux pas faire une philosophie sans que l'homme soit présent. Et donc, sans tout de suite, je retrouve ça. Qu'est-ce qui est impliqué ensuite ? Qualité, quantité, les dix prédicaments. Les dix prédicaments sont présents dans toute cette partie de la philosophie. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que le dépassement qui doit se faire, le dévoilement du jugement d'existence, qui me permet de dire, il y a une nouvelle philosophie qui apparaît, une nouvelle science philosophique qui apparaît, la science de ce qui est en tant qu'il est. Ce jugement d'existence va impliquer, ne refuse pas du tout les dix prédicaments. Vous avez donc un jugement d'existence qui est fondamental et dix déterminations. Et les dix déterminations ne sont pas données par la métaphysique. Ça présuppose la métaphysique. Et d'une certaine manière, on peut dire que les dix prédicaments sont présupposés à toute philosophie. C'est pré-philosophique. C'est pas au sens rigoureux philosophique. Comme le jugement d'existence, il est pré-philosophique. Toute science présuppose quelque chose qui est donné. Aristote dit ça dans les Secondes analytiques. Toute science, il y a un présupposé. Quel est le présupposé de la philosophie première ? Les dix prédicaments et le jugement d'existence. Et si vous réfléchissez sur les dix prédicaments et le jugement d'existence, vous pouvez élaborer toute votre métaphysique. Pas besoin d'autre chose. Ça fait merveilleux. Les dix prédicaments doivent être toujours en contact avec l'homme, hein. Puisqu'il n'y a que dans l'homme qu'il y a les dix prédicaments. Ce qui montre bien que quand je dis « est présupposé à la philosophie première les dix prédicaments et le jugement d'existence », à partir de là, je comprends que la philosophie première s'élabore, elle aussi,
connaissent ces colonnes. À première vue, ça me semble très éloigné, hein, parce que le jugement d'existence est ceci. D'une certaine manière, rien n'est plus éloigné de l'homme que ceci qui est. Ceci est. Puisque ceci est, c'est toutes les réalités qui existent. L'homme, au milieu de toutes ces réalités, apparaît comme le roi des animaux. Donc, il apparaît comme quelque chose d'unique au milieu de toutes ces réalités. Alors, vous voyez, je saisis ces deux aspects, ces deux crêtes, en quelque sorte, ces deux pôles. Tout ce qui est présupposé à la métaphysique, ces cinq parties de la philosophie, le jugement d'existence, je le dévoile, nous avons vu comment hier, et les dix prédicaments sont présupposés. Une fois que les dix prédicaments sont présupposés et que le jugement d'existence existe, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a de premier dans ceci et en tant qu'il est ? Autrement dit, est-il la question de qui est-il par rapport à ce qui est du point de vue de l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Et alors, à ce moment-là, je comprends ce qu'Aristote nous dit dans le livre Zeta. Se poser la question qu'est-ce que c'est que l'être et qu'est-ce que c'est que la substance, c'est la même question. Pourquoi? Parce que la substance première, elle est radicale, et la substance seconde, c'est la détermination. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de premier dans le monde de l'être. Mais je veux savoir ce que c'est que la substance, comme je veux savoir ce que c'est que l'être. Autrement dit, je veux comprendre le lien qui existe entre substance et être. Les prédicaments me parlent de la substance première et de la substance seconde. Je veux savoir ce qu'est la substance. Donc le dépassement de cette distinction substance première, substance seconde. C'est une manière de poser le problème, vous voyez. C'est toujours important d'essayer de comprendre comment les problèmes se posent, parce qu'autrement, tout ça vient. Et la substance est posée avant la métaphysique. Elle est posée avant, elle est posée à travers toute la philosophie. C'est qu'il y a de fait Pierre qui existe. Pierre existe avant la métaphysique, heureusement, pour la métaphysique. Et l'homme a été découvert avant la métaphysique, heureusement. Les prédicaments ont été découverts avant. Alors, je vois tout de suite le dépassement. Vous voyez comme, alors, saisissez bien ce dépassement. Comme il y a un dépassement des cinq expériences pour découvrir le jugement d'existence, il y a un dépassement de substance première et de substance seconde pour saisir ce qu'est la substance, le qui est-il de la substance. Et cette saisie de la substance présuppose une certaine induction. Nous l'avons vu, ça. Je le rappelle simplement, certaine induction. Parce que tout principe propre ne se saisit qu'à partir d'une induction. C'est là où il faut saisir bien ce que c'est qu'un principe et un principe propre. Et saisir bien ce que c'est que ce principe propre qui est en même temps cause. Cause selon la forme de ce qui est. Cause selon la forme, c'est-à-dire cause dans l'ordre des déterminations de ce qui est. Et j'essaie, à partir de l'expérience, saisir ce qu'il y a de radical ou de premier dans la vie. Et c'est ça qu'on appelle substance. La substance, c'est ce qu'il y a de radical et de premier dans la réalité, et qui est source de toutes les déterminations. Et donc, à partir de là, il y a vraiment le dépassement de substance première et substance seconde. Substance première et substance seconde sont au niveau descriptif. Tandis qu'au contraire, la saisie de la substance propre, comme principe propre de ce qui est, c'est au niveau des principes et des causes. Je ne peux pas décrire un principe et une cause. Je ne peux la saisir qu'intellectuellement. Et je la saisis grâce à ce levier, du levier par où je saisis la substance. L'induction, c'est un levier, parce que ça me fait passer du visible à l'invisible. C'est le levier qui enlève la grosse pierre pour découvrir derrière la source. C'est là où Saint-Joseph doit nous aider.
saisir, enlever la grosse pierre pour saisir la petite source. Ce que je vois, c'est la grosse pierre. Ce que je vois, c'est les prédicaments, c'est les 10 prédicaments. Pas de difficulté, tout le monde peut saisir les 10 prédicaments. Avant d'être complètement fermé à toute espèce de réflexion descriptive. Alors je crois que tout homme peut comprendre un aspect descriptif. Action, passion, quantité, qualité, tout ça, ça peut se comprendre très bien. Et même sujet, et Pierre est un homme, quand même, on réfléchit un peu, qu'est-ce quand je dis Pierre est un homme, qu'est-ce que ça veut dire ? Substance seconde, substance première, c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est de soulever cette grosse pierre que représentent les 10 prédicaments. Dépasser l'aspect descriptif pour que l'intelligence saisisse la source. Ce qui est l'au-delà de toutes les déterminations. Alors je ne peux plus décrire. Mais tout ça, je peux le décrire. L'au-delà de toutes ces déterminations. Au fond, vous voyez, nous retrouvons là la question que tous les philosophes se sont posés. Tous les philosophes se sont posés l'au-delà du visible. Tous. Ils ont répondu différemment. C'est là où c'est intéressant, ils ont répondu différemment. Ils ont répondu selon des réponses très très diverses. Certains ont dit rien en dehors du visible. Ça, ils sont farouches. Nietzsche. Très farouche, c'est pour ça que Heidegger dit, c'est là où la métaphysique est descendue le plus bas. C'est le jugement d'Heidegger par rapport à la Nietzsche. C'est là où la métaphysique s'est écroulée. Parce que si je dis qu'il n'y a que le visible, il n'y a plus de métaphysique. C'est bien évident. Il y a un positivisme absolu. Vous ne pouvez que décrire les réalités. Quand elle dit, il y a un nous-mêmes. Je ne le connais pas, il y a un nous-mêmes. Donc, il y a un chat caché. Il est noir, s'il est dans le noir, je ne le vois pas. Donc, c'est nous-mêmes. Je ne vois pas, impossible de le voir. C'est quelque chose que je ne vois pas. La seule chose que je vois, c'est les descriptions. C'est ça que je vois. Ça. C'est la seule chose que je vois. C'est tout l'aspect descriptif. C'est les déterminations. Mais la réalité cachée, je ne la vois pas. Mais l'accepter. C'est là où on voit très bien que Kant a saisi qu'il y avait quand même quelque chose. Nietzsche, non. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un jugement esthétique. Et le jugement esthétique, c'est le jugement justement qui implique le point de vue sensible. Et vouloir trouver autre chose, c'est un mensonge. On n'a rien, on ne peut pas. On voit très bien la position des Grecs. C'est très intéressant, mais ce serait... Quand on essaie de voir l'histoire de la philosophie, c'est un des aspects très importants que Merleau-Ponty avait très très bien saisi, du visible à l'invisible. Saisir le visible à l'invisible. Très bien, comprenons qu'il y a là un problème fondamental. Est-ce que la substance est-elle uniquement au niveau descriptif ou est-ce que la substance est au niveau de l'être ? Et en saisissant la substance au niveau de l'être, je saisis l'invisible. Je saisis quelque chose que seule l'intelligence peut saisir. Seule l'intelligence peut saisir. L'intelligence seule peut découvrir une source cachée. Et c'est pour ça qu'il y a un levier. Et je crois que l'induction, c'est bien un levier. C'est pour ça que c'est si difficile de faire ça, à bien manier. Faire rouler la pierre. Faites rouler la pierre. Et vous faites rouler la pierre grâce à l'interrogation. C'est ça qui est merveilleux. Parce que l'interrogation porte sur l'invisible. Vous n'interrogez pas sur le visible. Vous me dites, regarde. Regarde le petit oiseau. Mais vous n'interrogez pas. Vous montrez. On montre le visible. Tandis que l'intelligence est capable d'interroger. Et vous voyez, c'est ça qui me semble très important. L'intelligence est capable d'interroger. Et quand l'intelligence interroge, l'intelligence nécessairement interroge sur quelque chose qu'on ne voit pas. L'interrogation porte sur l'invisible. Donc, l'intelligence devance par l'interrogation la réponse. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'induction sans interrogation. qu'il n'y a pas de découverte scientifique sans hypothèse. Et donc l'interrogation est à la philosophie ce que l'hypothèse est à la science. Je peux évidemment découvrir quelque chose sans avoir posé d'hypothèse, mais normalement, scientifiquement, on ne connaît une chose que lorsqu'on a compris que cette hypothèse, elle était pour nous une voie d'accès vers quelque chose qu'on a découvert. Alors ça, c'est pour ça que vous avez dit, le statut d'interrogation est une chose très intéressante pour nous, parce que peut-être que c'est le moyen pour nous de sortir de notre positivisme. C'est par l'interrogation. C'est par l'interrogation que vous sortez du positivisme. Le positivisme qui reste uniquement à voir ce qu'on voit, ce qu'on constate, ça dépasse. Évidemment, la métaphysique, quand elle provient après toutes ces parties, on n'est pas dans le positivisme. Hein, parce que l'éthique, vous pouvez découvrir la finalité. On a découvert quand même des principes. Hein, donc on sait ce que c'est. Et on veut découvrir le principe radical. Le principe qui est principe des autres principes, c'est sûr, le principe radical, le principe dans l'ordre de l'être. Alors pour découvrir ce principe dans l'ordre de l'être, je crois qu'un des aspects les plus merveilleux, c'est de mettre l'opposition ou la distinction entre substance première et substance seconde. Vous essayez de saisir ce qu'est la source au-delà de la substance première, au-delà de la substance seconde, et découvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Donc l'induction, ce levier par où l'intelligence découvre quelque chose. Une fois que l'intelligence a découvert l'ousia, la substance, elle montre que la substance est source de toutes les déterminations. Elle l'a découvert comme ça, du reste. Donc, elle découvre que la substance est source d'autonomie dans l'ordre de l'être. Qu'est-ce qui structure la réalité? C'est sa substance. Cette substance n'est pas premièrement sujet. Elle n'est pas premièrement forme. Elle est principe, cause, selon la forme de ce qui est. Ceci, c'est pour bien situer hein, l'ousia. Principe d'autonomie, c'est vrai. Elle est principe d'autonomie. Mais je peux aller peut-être plus loin et je peux préciser que cette autonomie fait que la substance subsiste. C'est-à-dire que dans l'ordre de l'être, elle a besoin de rien d'autre qu'elle-même pour exister. C'est ça que ça veut dire. Et alors, il faut bien comprendre ça, parce que ça pourrait aller vers quelque chose qui nous conduirait à Spinoza. Et si on veut comprendre Spinoza, c'est justement ce point de vue-là. C'est qu'il a un peu matérialisé la subsistance. La substance est un en-soi, est quelque chose qui existe par soi d'une manière telle que la substance ne peut être que l'être premier. Il y a un tout petit décalage qui est très intéressant à voir cela. C'est pour ça que Spinoza, à ce point de vue-là, est très intéressant, parce que c'est le philosophe de la substance prise absolument comme absolue. C'est le cyclope, un œil, uniquement. Tout se ramène, si vous voulez, à cette substance. Et on comprend, puisque je dis que la substance, principe d'autonomie, que la substance subsiste. C'est-à-dire qu'en elle, l'être est premier. La substance, c'est toujours quelque chose de premier, et c'est en elle que l'être est premier. Et donc c'est en elle que je peux découvrir cette autonomie de l'ordre de l'être, cette autonomie parfaite. Dans la substance, l'être subsiste. Il est par soi. Si l'être est par soi dans la substance, on peut très bien comprendre, à partir de là, que être et substance s'identifient. Parce qu'elle est première. Alors, vous voyez, c'est là la confusion. Je dis que la substance est première dans l'ordre de l'être, mais ça ne veut pas dire qu'elle épuise l'être. Elle est principe de l'être. Elle est un aspect de l'être. L'aspect le plus radical, l'aspect principal, l'aspect premier, mais elle n'est pas tout l'être. La preuve, c'est que je suis parti des diverses modalités de l'être, les 10 prédicaments, pour découvrir la substance. Et donc, au point de départ, j'ai vu tout de suite que l'être se donnait à moi dans la diversité. Au point de départ, je découvre cette diversité et ce pluralisme à l'intérieur de l'être, puisque j'ai découvert les 10 prédicaments. Et donc, en découvrant la substance, les 10 prédicaments demeurent. Mais je découvre la source des 10 prédicaments. Si j'identifiais substance et être, je supprimerais le réalisme des 10 prédicaments. Et donc, je serais en opposition avec mon point de départ. C'est là où on voit que la substance de Spinoza, c'est un a priori. Puisque c'est contraire à mon expérience. Toute mon expérience monte à l'inverse. La substance est saisie comme source, comme principe, mais la substance n'est pas saisie comme absolu. En ce sens qu'elle n'est pas saisie comme la totalité de l'être. Elle n'est pas la totalité de l'être. Elle est source particulière selon la forme de ce qui est. C'est tout le problème donc de la subsistance. Nous étions restés là, ce problème de la subsistance. Je vous avais rappelé des textes très importants de saint Thomas, mais je ne vais pas trop m'attarder, vous voyez. Je n'ai pas envie de m'attarder trop à la subsistance. Ceux qui veulent vraiment étudier la subsistance, ça vaut la peine, c'est un problème très intéressant. C'est un problème qui est sûrement très important à saisir. Mais je ne vais pas m'attarder. Vous pourrez regarder dans le livre sur l'être, justement les différents textes de saint Thomas sur la subsistance. C'est important, il faut entrer dans ce problème de la subsistance. Mais je n'ai pas envie de m'attarder trop. Je vais simplement rappeler cette chose importante que la substance, parce qu'elle est première dans l'ordre de l'être, demande de se distinguer de tout ce qui est second dans l'ordre de l'être, donc des accidents. Et que les accidents, dans leur être, sont relatifs au sujet, à Pierre. Tandis qu'au contraire, la substance en elle-même n'est relative à rien. Elle est première dans l'ordre de l'être. Si elle est première dans l'ordre de l'être, elle subsiste. C'est tout simplement ça qu'on veut montrer quand on dit la substance. Alors, il y a un très gros problème, c'est sur celui-là que je terminerai. Après, nous pourrons entrer dans la métaphysique de la qualité de la quantité. Je crois que c'est bon d'entrer tout de suite dans cette métaphysique de la qualité de la quantité. Le gros problème, c'est celui-ci. Vous allez, j'espère, comprendre. Nous avons vu le problème de l'individuation et nous voyons maintenant le problème de la subsistance. On aurait pu voir le problème de la subsistance avant et le problème de l'individuation après. Ça n'a pas tellement d'importance. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez nous y avons la substance correspond à l'interrogation du qui est-il ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce ce qui est vu du point de vue de l'être ? L'ousia et la substance, c'est arché, c'est principe, c'est cause. Donc c'est saisi par l'intelligence comme un principe et une cause. Je me pose la question de l'individuation. Comment cette substance, comment ? C'est la question du comment.
Donc la question du cause, très important, hein, de toujours bien distinguer ça. Ce qui correspond à l'interrogation du tiesti et ce qui correspond à l'interrogation du cause. C'est la seule manière pour nous d'éviter le positivisme. Puisque le propre du positivisme, c'est de rejeter l'interrogation du tiesti et du pourquoi pour ne regarder que le comment. Alors, il s'agit de maintenant bien comprendre ce principe. Comment existe-t-il dans la réalité? C'est le problème de l'individuation. Comment ma substance humaine va-t-elle exister dans le monde physique? Elle existe en impliquant le corps, en impliquant la matière. Qu'elle devienne une substance composée. Et je me pose la question du comment de cette substance composée. Comment se présente-t-elle? Comment existe-t-elle? Et je suis au niveau de l'exister ici. Il ne faut pas oublier. Avec le comment, on est toujours au niveau d'exister. Comment existe-t-elle? Ce principe radical et fondamental. Et je regarde à ce moment-là l'homme, comment la substance homme existe-t-elle dans notre monde physique? Donc elle existe toujours d'une manière composée. Premier problème, deuxième problème, troisième problème. La substance subsiste. Quand je dis que la substance subsiste, je veux dire qu'elle existe par soi. Je ne peux pas parler de la subsistance sans parler de l'exister. L'exister est impliqué dans le problème de la subsistance. Comme dans l'inhérent, c'est impliqué le problème de l'existence de l'être humain. Alors, vous voyez le problème qui se pose. Comment comprendre le lien entre le problème de la substance qui subsiste, donc qui existe, et l'individuation? Ce sont deux problèmes parallèles, parce que tous les deux se situent du côté du comment. Comment la substance peut-elle exister dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde physique? Comment la substance est-elle individuée? Alors, comment situer ces deux problèmes dans l'ordre du comment? Vous savez que le comment, c'est ça qui est très curieux, le comment se situe à l'égard de tout les causalités. Ça, il faut y réfléchir. Petit problème critique. Les causalités, vous commencez à les connaître. Causalité au niveau de la forme. Causalité au niveau de la matière. Causalité au niveau de l'efficience. Causalité au niveau exemplaire. Et puis, finalement. Et je découvre les causalités par l'interrogation. L'interrogation du tiesti, du pourquoi. Puis il y a le comment. Quand l'intelligence interroge à propos du comment, l'intelligence ne découvre pas de cause. Il n'y a pas de cause du comment. Le comment présuppose les causalités et essaie de comprendre comment ces causalités s'exercent. Le comment implique toujours l'exercice. Simple ou composé. Vous voyez donc que le comment va, de fait, être toujours lié à telle ou telle causalité. Quand je saisis une cause, je me pose la question, comment est-il? Alors, l'individuation,
c'est la substance par rapport à la matière. La subsistance, c'est la substance par rapport à la forme. Vous voyez donc que le comment de l'individuation et le comment de la subsistance me font comprendre cette double relation des substances composées. Il y a donc bien deux problèmes du comment, de l'ousia par rapport à la matière, l'individuation, de l'ousia par rapport à la cause formelle, le problème de la subsistance. Alors, je crois que ça, c'est très important de comprendre, parce que de cette manière-là, vous pouvez comprendre comment il y a ces deux comment, ces deux causes. Et que le pose par rapport à l'individuation et que le pose par rapport à la subsistance, tous les deux sont complémentaires. Je suis là au niveau de la substance composée. Je ne suis pas du tout au niveau de la substance principe. Mais je suis là au niveau existentiel ou existentiel de la substance. Parce que c'est lié au principe. Existentiel est lié au principe. Il y a quelque chose de fondamental. Tandis que regarder la substance, c'est aller beaucoup plus loin. Alors, je vois bien que la substance peut être regardée selon deux comment différents, la substance composée, selon le comment de la matière, et selon le comment de la matière.